Vous écoutez, on lit pour vous.
Veille sur moi, quand une grand-mère tente de sauver son petit-fils. Un texte de Marco Forti, paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir. Fasciné par le drame de la fillette de Grainbé, trouvée morte en 2019 après avoir été maltraitée dans des circonstances horribles, Guylaine Tremblay s'est demandé pourquoi la grand-mère n'avait pas hérité de la garde de la petite. Elle a eu l'idée de la série « Veille sur moi » à l'affiche de l'Extra d'ici tout.tv à compter du 10 octobre, qui explore un angle mort du droit de la famille, l'impuissance des grands-parents à défendre leurs petits-enfants victimes de négligence. Les deux premiers épisodes de la série que les journalistes ont pu visionner en avance provoquent de grandes émotions. On a la gorge nouée en voyant le petit Zach, 5 ans, tiraillé entre sa mère et sa grand-mère, profondément blessé par la vie, qui se dispute la garde de l'adorable garçon. Les deux femmes reproduisent, consciemment ou non, leur traumatisme hérité de famille dysfonctionnelle. La marde finit toujours par remonter avec elle, résume Maggie, la grand-mère jouée par Guylaine Tremblay, en parlant de sa fille Corinne, Pascal Renaud-Hébert, qui signe aussi le scénario. Maggie s'occupe depuis 3 ans du petit Zach, touchant Jérôme Hébert, parce que Corinne, la mère du garçon, est partie sur une dérape monumentale qui l'a menée jusqu'à Québec avec un conjoint violent. Lorsque Corinne revient dans sa banlieue montréalaise en affirmant être tout à fait sobre, Maggie s'inquiète pour Zach, qui ne reconnaît même plus sa mère. Le problème, c'est que Maggie a elle-même négligé sa fille dans le passé à cause d'un problème d'alcool. Les deux femmes ne se font pas confiance. Le feu prend dès qu'elles tentent le moindre rapprochement. Le ton monte, leur vieille blessure aussi, et la colère prend toute la place. Corinne et Maggie s'entre-déchirent, c'est laid, mais ce qu'elles ont en commun, c'est leur amour véritable pour cet enfant-là, explique Guylaine Tremblay. La série s'interroge sur la possibilité de rédemption. Une mère peut-elle changer? Et qu'est-ce qui est le mieux pour le bien de l'enfant? On suit l'enquête menée par la Direction de la protection de l'enfance après un signalement pour mauvais traitement. Le scénario explore aussi la place réelle des grands-parents face à leurs petits-enfants. Sans jugement de la cour, la grand-mère n'a aucun pouvoir légal pour s'occuper de Zach. Comprendre plutôt que juger. Guylaine Tremblay espérait très fort que Pascal Renaud-Hébert accepterait de signer le scénario. Elle avait été impressionnée par le travail de l'autrice de la série M'entends-tu, qui se déroulait aussi dans un milieu défavorisé et peu éduqué. J'avais déjà travaillé des personnages similaires pour M'entends-tu. Je pouvais, comme humaine, me projeter sans jugement, avec de l'empathie dans tous les personnages. Ce ne sont pas des gens qui sont loin de moi, raconte Pascal Renaud-Hébert. Le réalisateur Raphaël Ouellet se sent lui aussi proche des personnages de la série. Guylaine Tremblay tenait à incarner une grand-mère éminemment respectable, malgré ses démons. J'ai habité 13 ou 14 ans dans la basse ville de Québec. Des Maggie, il y en avait. Ce sont des gens intelligents, de peu de mots, qui ont du cœur et sont très dignes. Maggie, sa maison est propre, dit-elle. Cette série est la première série de fiction produite par Pamplemousse Média, la compagnie de France Baudouin. L'animatrice a été séduite par l'aspect universel de ce drame qui peut arriver à n'importe qui. Elle tenait à ce qu'il y ait de la lumière dans cette sombre histoire. Un Zach émouvant. Le personnage de Samantha, l'amie barmaid de Corinne, apporte une partie de cette lumière. Karine Gontier-Inman resplendit dans le rôle de cette femme frondeuse, roqueuse sur les bords qui balance leurs 4 vérités à Corinne et à Maggie. La lumière vient aussi du jeune Jérôme Hébert, craquant en petit Zach pris entre les tourments de sa mère et de sa grand-mère. La coach de jeu Marie-Claude Saint-Laurent a habilement dirigé le garçon de 5 ans pour qu'il ait l'air troublé sans devoir porter la souffrance du petit personnage. Elle a dit au jeune comédien de faire comme s'il avait un gros rhume pour avoir l'air ému. L'équipe de tournage a joué à la tag, au ramassage d'escargots et à Spider-Man pour motiver le petit acteur. Guylaine Tremblay se souvient de moments parfaits avec son complice au fil des 28 jours de tournage dans le vieux Longueuil. La scène où elle lui lit l'histoire du petit chaperon rouge a été tournée un soir de canicule vers 21h15. Il était tard pour le garçon. Il me dit « Guilou, j'ai chaud, mais nous, les comédiens, on n'abandonne jamais. » C'était « Veille sur moi, quand une grand-mère tente de sauver son petit-fils », un texte de Marco Fortier paru le 8 octobre 2024 dans Le Devoir.
En français, please, un texte de Maxime Bergeron, paru le 10 octobre 2024 dans La Presse. J'aimerais vous parler un peu de mes habitudes alimentaires douteuses et beaucoup de la situation du français à Montréal. Le lien peut sembler ténu, mais suivez-moi. Nos restaurants et autres services de livraison sont un baromètre assez fidèle de la question linguistique, selon moi. Une jauge qui permet de prendre le pouls en temps réel. Et comme bien des Montréalais, je suis moyennement rassurée par ce que j'observe ces derniers temps. Premier arrêt, Plaza Saint-Hubert. J'adore le poulet frit. Il y a sur cette artère du quartier très francophone de Rosemont une chaîne connue qui propose des hauts de cuisse à la croustillance parfaite, gras, doré, salé, la Sainte Trinité. Ça me hérisse chaque fois que j'y mets les pieds. Impossible d'être servi en français. J'ai cessé de fréquenter ce commerce après quelques visites. Mon foie m'en remercie. Autre expérience récente. Dans un restaurant aux arches dorées du Vieux-Montréal, aux caisses, un service unilingue en anglais. En cuisine, pas un mot de français non plus. Vais-je y renoncer? Le jury délibère. Dans le plateau Mont-Royal, la semaine dernière, une autre désagréable surprise m'attendait. Dans une épicerie d'un géant québécois coté en bourse, deux employés, à qui j'ai demandé coup sur coup où trouver les anchois, jugez-moi, ne comprenaient pas un seul mot de français. Sans parler de tous ces services de livraison auxquels je recours trop souvent comme Uber Eats et DoorDash. Ils me fournissent quantité de délices au pas de ma porte, poulet au beurre, nouilles ramen, dumplings, mais encore une fois, zéro français de la part des livreurs, 9 fois sur 10. Thank you, bye. Est-ce un drame? Mes repas sont-ils moins savoureux et caloriques pour autant? Est-ce que ces gens ne méritent pas de travailler car ils ne parlent pas français? Bien sûr que non. Mais ces exemples, j'aurais pu vous en fournir bien d'autres, témoignent d'un recul assez clair du français à Montréal. Ils illustrent aussi la réalité suivante. Le fait de maîtriser la langue est devenu facultatif dans plusieurs secteurs, dont ceux de la restauration et de la vente au détail. Une étude publiée en avril 2024 par l'Office québécois de la langue française, OQLF, confirme la tendance. L'échantillonnage de l'OQLF est beaucoup plus vaste que le mien. On sort de l'anecdote pour tomber dans le systémique. Les inspecteurs ont effectué 10 378 visites dans 7 314 commerces de civils québécoises. Dans l'île de Montréal, 3 002 établissements ont été ciblés. Les observations de l'OQLF y sont troublantes. Entre 2010 et 2023, le taux d'accueil en français a diminué de 13 points de pourcentage dans la métropole. Il est passé de 84 % à 71 %. Quelques autres observations de l'OQLF. Le taux d'accueil dans les deux langues, le fameux « bonjour, hi », s'élève à 15 % au centre-ville. L'accueil uniquement en anglais atteint 31 % dans l'ouest de l'île. L'est de l'île demeure, pour l'instant, un bastion assez franco, avec 91 % des clients reçus en français dans les commerces. La question linguistique figure tout en haut de la liste des priorités du gouvernement caquiste de François Legault. Il y a beaucoup d'actions sur ce front. Québec mène ces jours-ci une vaste campagne publicitaire pour redorer le blason du français. Il appliquera aussi bientôt certains volets de la loi 96 pour forcer tous les commerces à s'afficher dans la langue de Molière. Chance de succès de ces mesures inconnue. Paradoxalement, Québec déploie ses efforts au moment même où il réduit le financement alloué aux classes de francisation. Dur à suivre. Sur le plan local, un comité mandaté par la Ville de Montréal a remis cette semaine ses recommandations pour renforcer le statut du français au sein de la machine municipale. J'ai parlé à deux membres influentes de ce groupe, les anciennes ministres péquistes Louise Arel et Louise Baudouin. La première insiste sur la nécessité de ne pas céder au pessimisme, malgré les statistiques déprimantes qui s'accumulent. Son comité propose la création d'un bureau de la francophonie au sein de la ville. Il demande aussi à l'administration de faire davantage de place aux Français dans toutes ses instances, comme ses arénas et ses bibliothèques, en y diffusant seulement de la musique francophone. Il faut que la ville soit exemplaire, selon Louise Baudouin. Il faut que la ville en fasse plus. Difficile d'être en désaccord avec Mme Baudouin, même si on peut douter de l'effet réel que pourraient avoir les mesures suggérées. La proposition la plus importante du groupe, selon moi, touche la révision proposée du plan stratégique 2030 de la Ville de Montréal. Ce plan dévoilé en 2021 comprend quatre orientations. Accélérer la transition écologique, renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion, amplifier la démocratie et la participation et stimuler l'innovation et la créativité. La suggestion du comité, en ajouter une cinquième, une orientation qui indiquerait, noir sur blanc, la responsabilité de la ville de défendre et promouvoir le français plutôt que de reléguer cette notion à une note de bas de page. Ce serait déjà ça de prix. C'était « En français, please », un texte de Maxime Bergeron paru le 10 octobre 2024 dans la presse.
Voir le monde comme un beigne. Un texte de Paul Journet, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse. On attribue au mathématicien indien Bhaskara II une des premières tentatives de créer une machine à mouvement perpétuel au 12e siècle. D'autres esprits ambitieux se sont par la suite heurtés à cette chimère jusqu'à ce que l'Académie royale des sciences de Paris prenne la résolution, en 1775, de ne plus l'étudier. Ce projet reste malgré tout en vie. C'est le cœur de notre système économique. Fabriquer toujours plus de biens sur une planète finie avec des ressources limitées. Or, la thermodynamique le précise avec ses deux premières lois. On ne crée pas de l'énergie à partir de rien et toute forme d'énergie se dégrade avec le temps. L'économie se veut une science, mais elle fonctionne en marge de la réalité. Et c'est ce que déplorait il y a 7 ans déjà l'économiste britannique Keith Raworth dans un essai influent « La théorie du donut ». Selon elle, la croissance est devenue un objectif aussi économique que politique. Elle permet à tout le monde de croire que son sort pourrait s'améliorer. Et pour cela, il faut sans cesse consommer plus d'énergie pour transformer plus de matière en produits. La professeure d'Oxford dénonce la dérive de sa profession, qui, ironiquement, s'est coupée du monde réel en voulant imiter les sciences de la nature. À partir du début du XXe siècle, le courant dominant en économie consistait à découvrir des lois. Pour cela, il fallait tout chiffrer. Des théoriciens ont ainsi développé des modèles mathématiques qui simplifiaient le monde. Par exemple, dans le produit intérieur brut, PIB, la nature n'existe pratiquement pas. Cet indicateur intègre la quantité de poissons pêchés, le flux, mais pas celle qui reste, le stock. Et la pollution de l'air ou de l'eau n'apparaît nulle part. Si un pétrolier provoque une marée noire, cela ne réduit pas le PIB. C'est même bon pour l'économie. Les opérations de nettoyage stimulent l'emploi. L'humanité peut ainsi s'enrichir tout en appauvrissant les écosystèmes dont elle dépend. Kate Raworth n'est pas la première à le déplorer. En 1972, un rapport de chercheurs du MIT, « Les limites de la croissance », mettait en garde contre le choc à venir. Mais aucun pays n'a écouté. En 2009, un groupe d'éminents chercheurs a identifié 9 limites planétaires, concentration de CO2 dans l'atmosphère, taux d'extinction des espèces, concentration d'azote et de phosphore, défrichage des sols, contaminants, eau douce, couche d'ozone, acidification des océans et aérosols. Quand Mme Raworth écrivait son essai, 4 limites avaient été franchies. Nous sommes maintenant rendus à 6. Ces seuils sont difficiles à chiffrer et font l'objet d'un débat méthodologique. En effet, la planète n'est pas un diagramme à 2 variables. C'est un système complexe et difficile à prévoir, avec des boucles de rétroaction. Mais cette incertitude peut aussi servir d'argument pour la prudence. Un cas bien connu. Si l'Arctique se réchauffe trop, le pergélisol libérera du méthane dans l'air, ce qui accélérera le réchauffement. Chose certaine, le rythme actuel est effréné. En voici quelques exemples. L'appétit humain en hausse. Matière consommée, de 1900 à 1950, 200%. De 1950 à 2000, 400%. De 2000 à 2015, 60%. Eau consommée, de 1950 à 2010, 300%. Énergie consommée, de 1950 à 2010, 400%. La biomasse en baisse, source, la théorie du donut, l'économie de demain en 7 principes, de Kate Raworth. Mammifères terrestres sauvages, de 1900 à 2015, moins de 70%. Insectes, de 2010 et 2019, moins de 41%. Pour un politicien, le long terme équivaut à la durée d'un mandat, soit environ 4 ans. Mais quand on réfléchit à la viabilité d'un système économique ou à l'avenir de l'humanité, il faut s'étirer le coup pour voir plus loin. Effet à long terme de la croissance. Par rapport à l'année 2015, à quoi ressemblerait l'économie dont la croissance serait de 3% par année? En 2050, un PIB 3 fois plus grand. En 2100, un PIB 10 fois plus grand. En 2200, un PIB 240 fois plus grand. Bien sûr, personne ne voudra sacrifier son confort en fonction de ce qu'il arrivera si longtemps après sa mort. Il est plus facile d'espérer que les progrès scientifiques feront le travail. Mais la technologie se heurtera, elle aussi, aux mêmes défis physiques. Comment alimenter cette croissance? On ne s'en sortira pas. Il faut de l'énergie. Le père de la théorie de la croissance, Robert Solow, qui a gagné l'équivalent du prix Nobel d'économie en 1987, estimait que plus de 80 % des sources de la croissance proviennent des innovations technologiques. D'autres chercheurs ont révisé ces travaux au début des années 2000. L'essentiel de ces innovations consistait en fait en des gains d'efficacité pour convertir l'énergie en travail. Le mot-clé ici est « énergie ». Cette conversion de plus en plus efficace a été rendue possible au dernier siècle grâce à l'essor des combustibles fossiles. Un litre de pétrole équivaut à environ 12 jours de labeur humain, souligne Raworth. Hélas, cette énergie existe en quantité limitée et on connaît le coût environnemental de son utilisation. Vous écoutez? Voir le monde comme un beigne. Un texte de Paul Journet, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse. D'autres technologies émergent, comme les éoliennes et les voitures électriques. Mais elles n'existent pas dans le vide. Les éoliennes et les voitures vertes requièrent des matériaux et de l'énergie. Et d'immenses centres de données sont requis pour faire fonctionner les technologies qui prétendent opérer dans les nuages. Bref, malgré son utilité, l'innovation ne suffira pas. Il faudra aussi à la fois mieux consommer et moins consommer. Raworth connaît le pouvoir de l'image. Elle en a trouvé une toute simple, le beigne. Sortez du beigne et vous dépassez les limites de la planète. Générez une activité économique trop faible et vous serez dans le trou du beigne, où les besoins humains ne sont pas satisfaits. La nouvelle mission de l'économiste est ainsi de trouver l'équilibre qui assure la qualité de vie dans le respect de la capacité des écosystèmes à se régénérer. La professeure n'est pas une militante anticapitaliste ni anticroissance. Elle reconnaît l'énorme progrès accompli, comme la réduction du taux de pauvreté extrême, de la mortalité infantile et des heures travaillées. Elle souligne aussi que la croissance reste nécessaire pour les pays moins riches. Mais elle met en garde contre les prédictions naïves qui consistent à présumer que le progrès se poursuivra au même rythme. Elle préfère poser une autre question. Que se passera-t-il si l'empreinte écologique continue de s'intensifier? La réponse se trouve dans les milliers de pages des rapports de climatologues et de biologistes. Raworth reconnaît l'ampleur du défi. La croissance est devenue un impératif politique. Les politiciens y voient une mesure de leur succès. Elle aide aussi la cohésion sociale. Comme le remarquait dans les années 1970 Henry C. Wallach, de la Réserve fédérale américaine, la croissance permet de tolérer de fortes différences de revenus, car les moins fortunés croient que leur tour viendra. C'est d'ailleurs ce qu'on leur répète. L'inventeur du PIB, Simon Kuznets, avait tracé une courbe selon laquelle la croissance mène à une hausse des inégalités dans un premier temps, pour ensuite les réduire. Ce modèle est à 95 % spéculatif, reconnaissait-il. Mais des économistes en ont fait une loi. Pourtant, les inégalités et la croissance n'entretiennent pas de lien logique. L'un peut augmenter pendant que l'autre diminue et vice-versa. En s'appuyant sur une étude d'épidémiologistes publiée en 2009, « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous », Raworth démontre que la croissance n'est pas toujours liée au bien-être. Par exemple, le PIB ne dit rien de la répartition des revenus et des inégalités ou de la qualité des liens sociaux. Autre angle mort, le travail non rémunéré. Le meilleur exemple est la mère invisible du père de l'économie, Adam Smith. L'Écossais, qui n'a pas eu d'enfant, habitait chez sa mère, qui cuisinait ses repas et veillait à ses autres besoins. Ces tâches essentielles n'apparaissent nulle part dans les indicateurs économiques. Et comme l'a démontré l'économiste Richard Easterlin, au-delà d'un revenu annuel d'environ 100 000 $, un dollar additionnel gagné a un impact de plus en plus faible sur le bien-être. Un exemple. Depuis les années 1970, la taille des maisons a presque triplé aux États-Unis. Cela exige plus de matériaux, plus d'électricité et plus d'infrastructures pour étaler des humains qui brûleront plus de pétrole pour se déplacer. Et ils n'en sont pas plus heureux, à en juger par les réponses qu'ils donnent eux-mêmes dans les sondages. La tâche de l'économie du 21e siècle est de trouver un nouveau modèle viable, écrit Raworth. Au lieu d'être un ingénieur, l'économiste devrait agir en jardinier qui veille à l'équilibre d'un système, en s'assurant que chaque espèce dans le jardin pousse sans menacer les autres. Et c'est un défi politique d'une extrême complexité. Il faudra convaincre les gens, surtout les plus riches et puissants, de moins consommer. Or, comme l'écrivait Upton Sinclair, il est difficile de faire comprendre à un homme quelque chose qu'il est tenu de ne pas comprendre pour toucher son salaire. C'était « Voir le monde comme un beigne ». Un texte de Paul Journet, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse.